Vous écoutez France Culture.
Place des Peuples, Madeleine Mukamabano.
Bonjour à tous. Acte de terrorisme attribué au groupe d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, rébellion, trafic de drogue, contrebande en tout genre, immigration clandestine, la dégradation de la situation sécuritaire de la bande sahélienne est prise au sérieux par les pays de la région, mais aussi par l'Union européenne. Malgré toute une série de rencontres, les États concernés peinent à trouver une approche commune. Des États et les populations face à l'insécurité dans la zone sahélienne, on en parle avec André Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS, Alain Antil, responsable du programme Afrique subsaharienne à l'IFRI. Il est aussi enseignant à l'Institut d'études politiques de Lille. La bande sahélienne, surtout toute cette région qui va du Niger à Mauritanie, a connu des périodes assez instables avec les rébellions Touareg aussi bien au Niger qu'au Mali. Aujourd'hui, on parle d'une recrudescence, d'une situation exceptionnelle. André Bourgeot, quelle est l'ampleur du phénomène par rapport à ce qu'on a connu dans cette région, qui n'a jamais été vraiment très tranquille?
Situation inédite, ampleur exceptionnelle, des enjeux majeurs. Si vous permettez de rajouter un point par rapport à votre présentation, une compétition énorme à propos des industries extractives, notamment pétrole et uranium, compétition entre les différentes sociétés nationales et multinationales pour le contrôle de la ressource, donc situation de turbulence énorme. Dans un contexte de réapparition de la rébellion Touareg à partir de 2007, autre aspect important, l'apparition de l'ACMI, notamment au Mali, ce qui pose des problèmes de relations entre...
Donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, oui.
Oui, des problèmes de relations entre le Mali et l'Algérie. L'Algérie qui, pour protéger ses frontières, a créé des zones militaires, puisque pratiquement toutes les frontières avec la Mauritanie, le Mali et le Niger sont maintenant zones militaires, avec interdiction de circuler sans autorisation de circulation. Donc vous voyez, les conséquences sont énormes, y compris les conséquences sur le plan des politiques nationales.
Ah oui, alors on reviendra aux conséquences sur les plans de politique nationale, mais aussi à cette absence de collaboration ou les difficultés de collaboration entre États. Alain Antil, qu'est-ce qui est, quand on parle d'insécurité grandissante aujourd'hui, parce que bon, les rébellions, on les connaît, il y en avait, quand on dit insécurité, on a l'impression que la sécurité des États est menacée, que les populations sont menacées. Or, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, on entend parler des étrangers qui ont été enlevés, de quelques attaques contre les forces de sécurité ici et là, mais c'est là où on a, encore une fois, on a du mal à saisir ce qui se passe dans la région.
Les attaques qui ont eu lieu, notamment en Mauritanie, qui, comme vous l'avez souligné, ont frappé surtout des Occidentaux et des militaires, ça a déjà un impact direct sur les populations parce que ça impacte notamment les économies des pays, les investissements que des entreprises pourraient avoir envie de faire et qui vont être retardés. Mais plus globalement, je dirais plus structurellement, on est dans un cycle, alors peut-être pas d'affaiblissement des États, mais en tout cas où des États sahéliens sont particulièrement fragiles parce que on parle beaucoup de terrorisme. Et ce que je pense, c'est que les trafics sont à terme beaucoup plus inquiétants que le terrorisme lui-même, parce que le terrorisme suscite une mobilisation, des contrôles, mais les trafics gangrènent les appareils de sécurité et même d'une certaine manière directement les...
Et toucher les populations directement aussi.
Les premiers cercles du pouvoir et par, disons, clientélisme, les populations elles-mêmes.
Oui, André Bourgeot. Donc il y a souvent un débat où d'aucuns disent le terrorisme d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, comme vient de le dire un peu Alain Antil, c'est pas le problème majeur de la région. Le problème majeur, ce serait avant tout le trafic de drogue et la contrebande.
Oui, je pense quand même qu'il y a des liens, probablement pas des relations organiques, mais en tout cas des interactions entre les pratiques dites terroristes de l'ACMI, les rébellions Touareg, et puis les trafics de produits illicites, y compris la drogue. Les trois se combinent, c'est ça le problème, c'est qu'il y a en permanence des interférences. Par ailleurs, je voudrais rajouter peut-être aussi une réflexion complémentaire. C'est que c'est vrai sur le plan économique, mais je constate aussi qu'il y a apparition de nouveaux opérateurs économiques qui sont directement liés au trafic de drogue. Ça veut dire qu'il y a des enrichissements énormes chez certains et qu'il y a constitution de réseaux. Et dans sa constitution de réseaux-là, il y a émergence effectivement de nouveaux opérateurs économiques qui n'interviennent pas, qui utilisent le trafic de drogue pour investir dans d'autres secteurs.
Alors, quand vous dites qu'il y a collusion ou coopération entre les terroristes, entre les trafiquants de drogue notamment, et les rébellions, ça se passe comment ?
Difficile à répondre concrètement sur les conditions.
Il y en a qui utilisent les autres, il y en a qui sont les prestataires des services des autres.
Oui, ça, je ne m'aventurerai pas dans une réponse positive ou négative parce qu'il faut avoir des éléments très concrets pour pouvoir l'affirmer. Mais tout laisse à penser qu'il y a des relations. Ça veut dire que dans certaines conditions, certains éléments de l'ex-rébellion malienne pouvaient très bien aussi aller du côté de l'ACMI pendant 15 jours, 3 semaines et ensuite retourner dans la rébellion. C'est quelque chose qui est fondamentalement instable. Ça fluctue en permanence. Donc cet aspect-là n'est pas du tout négligeable.
Allez, Antil.
Oui, sur la relation entre le terrorisme et les trafics, évidemment, les deux sont assez interpénétrés. Et le groupe qui navigue autour de l'un des chefs de Al-Qaïda au Maghreb islamique et sa branche saharienne, à savoir Mokhtar Belmokhtar, est aussi un trafiquant notoire. Et il y a aussi une économie de l'enlèvement qui commence à poindre. Quand on voit par exemple que lors des récents enlèvements d'Occidentaux, il a fallu attendre 15 jours pour que l'enlèvement du Français au Mali, Monsieur Kamat, soit revendiqué par ACMI. Il est vraisemblable, alors ça c'est une hypothèse, mais qu'un autre groupe l'a enlevé et qu'il l'a peut-être vendu à ACMI. Donc il y a déjà ce point-là.
Un peu comme ça se faisait en Irak, où les groupes se passent les otages.
Oui, il y a des signes qui montrent qu'on va peut-être vers ça. Le deuxième point, c'est sur le trafic. Si on prend un trafic en particulier comme celui du hashish qui vient du nord du Maroc, parce qu'on a toujours l'impression que le hashish marocain part vers l'Europe, mais il y a aussi une branche saharienne du hashish qui traverse finalement tous ces espaces. Et quand on étudie un petit peu le parcours de ce hashish, on se rend compte que finalement des tribus, des éléments politiques ou terroristes contrôlent chacun des segments. Et puis tout ça, de toute façon, est extrêmement variable. Et à un moment donné, on peut avoir un groupe Touareg qui va contrôler un segment, puis le segment suivant, c'est ACMI. Et puis tout ça est remis en cause assez régulièrement. Donc c'est très difficile de faire des affirmations. On est face à quelque chose de très mouvant. Pour revenir à la question principale, c'est que effectivement, il y a une interpénétration du terrorisme ou du radicalisme et des trafics.
Oui. Avant d'arriver aux conséquences, André Bourgeot, à quel moment ou quels sont les facteurs qui ont fait que cette zone est devenue ce qu'elle est aujourd'hui ? Parce que ça, bon, elle était instable, mais il n'y avait pas de terroristes. Les terroristes, c'était du côté algérien. Il n'y avait pas tellement de trafiquants de drogue. Il y avait plutôt des contrebandiers et les rébellions. Or, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une concentration presque de tous les maux.
Alors, c'est peut-être le moment de mentionner que l'Algérie est accusée d'avoir exporté les salafistes au Mali et au Niger, encore plus au Mali qu'au Niger. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une prolifération de la criminalité. Et cette criminalité, elle passe beaucoup plus par des pratiques individuelles que par des appartenances à des tribus ou à des clans. Je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, la cohésion, la solidarité clanique ou tribale n'existe plus. Et de ce fait-là, c'est constitutif de réseaux qui font en sorte qu'effectivement, ces réseaux sont porteurs de facto de formes de partition territoriale.
Donc vous parlez des populations de la région.
Oui, je parle des populations.
Des Touaregs particulièrement.
Notamment du Mali.
Oui.
Parce que la situation du Mali est quand même un peu particulière par rapport à la Mauritanie et au Niger. Il y a quand même de gros enjeux sur le contrôle des ressources minières. Or, actuellement, de mon point de vue, on assiste à une sorte de guerre de positionnement qui fait en sorte que chacun essaie de se situer par rapport, notamment au pétrole qui existe dans la région de Taoudani. Et ça pose ça des problèmes d'ordre international. Ça repose aussi le problème de la présence de troupes militaires étrangères. Et je fais référence
des Américains, notamment.
Des Américains. À cet égard, je voudrais quand même mentionner la chose suivante, c'est qu'il y avait une centaine de militaires américains qui étaient basés à Gao. et qu'ils se sont déplacés pour aller à Tombouctou. Or, Tombouctou, c'est quoi? C'est le gouvernorat de la zone de Taoudenni. Et Taoudenni, c'est là où se trouve le pétrole. Donc, je suis en droit de faire une relation entre le déplacement des troupes américaines de Gao à Tombouctou, parce qu'il y a le problème, probablement des contrôles sur les ressources extractives de Taoudenni.
Mais attendez, quand vous dites ça, quand vous dites qu'il y a un positionnement par rapport aux matières premières, notamment à ce pétrole qui n'a pas commencé à être exploité, est-ce que vous parlez des Américains face aux Français, aux Chinois vous parlez des pouvoirs locaux?
Je ne parle pas. Les pouvoirs locaux n'ont pratiquement aucun rôle dans les capacités à contrôler les choses sur les ressources minières. C'est surtout le problème de l'armée et puis aussi de l'influence que peut exercer l'Algérie sur toute cette partie du Mali, tout le septentrion malien.
Mais je ne vois pas le lien entre le terrorisme, le trafic de drogue, enfin, l'insécurité et les perspectives de l'exploitation du pétrole.
C'est un des éléments de déstabilisation politique des États. Ça remet en cause les souverainetés nationales. On se rend compte que tout le septentrion malien n'est pas contrôlé par le pouvoir central, que ça crée donc les conditions potentiel de zone de non-droit. Je pense que l'expression zone de non-droit me paraît pertinente pour caractériser cet espace-là. Et que dans cette zone de non-droit, eh bien effectivement, il y a tout un tas de pratiques illicites, y compris celui de la criminalité. J'en terminerai pour dire que rien ne prouve que la prise d'otages se fait directement par les gens de l'ACMI. En revanche, on est en droit de penser que l'ACMI utilise certains groupes, et je fais référence à la criminalité, qui, eux, prennent les otages et les revendent ensuite à l'ACMI.
Des groupes locaux, donc.
Des groupes locaux, oui, absolument des groupes locaux. Alors qu'ils soient Touareg ou Arabes, je ne sais pas, je ne m'aventurerai pas dans ce genre de choses-là. Mais il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire il y a le rôle des Kunta. Les Kunta jouent un rôle extrêmement important dans le septentrion malien.
Quels sont les Kunta?
Les Kunta, c'est des groupes arabes puissants, financièrement, puissant politiquement aussi. Ça renvoie aussi à la présence de milices arabes au Nord Mali. Alors, à cet égard, vous voyez toute cette situation de turbulence, c'est-à-dire face à cette situation, vous avez création de milices arabes, de milices peules. Donc, la dimension ethnique et pluriethnique, elle est particulièrement prégnante dans le Nord Mali.
Oui, donc quand il y a des groupes qui enlèvent les étrangers, on ne sait jamais qui fait quoi.
Un autre aspect qu'il faut souligner, c'est quand même étonnant que tous les otages, ceux qui ont été pris en Mauritanie, au Mali et au Niger, sont actuellement au Mali. Donc on est en droit de s'interroger, c'est pourquoi le Mali concentre autant de problèmes.
Oui, anéantit. Justement, le Mali qui est souvent accusé par les voisins, notamment par l'Algérie, de ne pas faire grand-chose, puisque tout converge encore une fois vers le Nord Mali. L'avion qui, l'année dernière, est tombé, s'est écrasé dans le Nord Mali avec des tonnes et des tonnes de cocaïne à son bord. On a dit c'est encore le Mali. On a l'impression peut-être que c'est le pays le plus faible de la région. Ou est-ce que c'est là où les groupes sont les plus actifs?
Effectivement, comme l'a dit André Bourgeot, on a tous les otages qui sont arrivés au Nord Mali. On a une armée qui est quand même assez faible. Hein. Je crois que de mémoire, on a à peu près 7 000 militaires au Mali pour un pays qui fait à peu près le double de la France. Donc ça vous donne une idée du quadrillage du territoire. De plus, c'est une armée qui est très très mal équipée. Et il se trouve que moi j'avais...
Pourtant depuis 2002, elle est entraînée par les Américains.
Oui, mais justement, moi j'avais rencontré un journaliste américain il y a 2 ans qui avait assisté à un entraînement justement près de Gao, de troupes maliennes. Il y avait un certain nombre de gros problèmes qui apparaissaient. D'une part, les officiers américains qui étaient envoyés ne parlaient pas forcément tous bien le français. D'autre part, ils entraînaient pendant 3 mois un bataillon ou enfin quelque chose de plus gros. L'année d'après, quand ils revenaient, ce n'étaient pas forcément les mêmes officiers qui dirigeaient le même bataillon parce qu'il y avait un turnover très, très important au sein de l'armée malienne. Et ils laissaient du matériel, à chaque fin d'entraînement, un matériel qu'ils ne retrouvaient pas l'année suivante. Donc quand on parle des Américains au Mali, d'ailleurs c'est une vieille coopération, elle n'est pas très très récente, il faut voir que, sur le papier ça a l'air important, mais la formation de certains bataillons de l'armée malienne n'est pas encore très très opérationnelle.
Peut-être un élément d'explication pourquoi le Nord Mali, si vous avez une approche historique depuis les indépendances, depuis 1960, tout le septentrion malien est dans une situation extrêmement particulière. Zone interdite à l'époque de Modibo Keïta à la suite de la première rébellion de 63-64. Ensuite, toute cette zone-là, je fais référence à l'Adar, avec comme capitale Kidal, a été interdit jusqu'à la conférence nationale, je crois bien.
Ensuite, oui, pendant toute la période des rébellions Touareg.
Absolument. Donc, les rébellions Touareg de 1990, à l'issue de ces rébellions Touareg, on accorde un statut particulier. Donc, c'est quand même quelque chose aussi de significatif d'accorder un statut particulier dans un État-nation qui est déjà fragilisé. Donc, tout
c'était
ce nord-là,
le prix de la paix.
C'était peut-être le prix de la paix, mais au Niger, ça s'est passé par un statut particulier parce qu'effectivement, le septentrion nigérien était beaucoup moins fragile que le septentrion malien. Donc, dans tout ce contexte-là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Mali n'est pas constitutif d'une situation qui permettrait une recomposition des zones d'influence ? Parce qu'il y a la présence des Américains, il y a l'influence de l'Algérie. Sur le plan alimentaire, tout le septentrion malien dépend de l'Algérie. Donc c'est déjà quelque chose qui...
Il y a l'influence de la Libye.
La Libye, là, il y a peut-être un peu une chose à dire sur la Libye. Je me suis amusé à comparer les sociétés libyennes et nigériennes qui interviennent au Mali et au Niger. Il n'y a pas de société libyenne de pétrole. Alors que la Sonatrach est très présente quand même
oui,
au nord.
Oui, sauf que la Libye, est présente au niveau de la société, plan culturel et dans d'autres secteurs de l'économie.
Mais je parle là de comparaison sur le plan économique. Le plan économique n'est quand même pas négligeable. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi il n'y a pas de sociétés pétrolières libyennes qui sont au nord Niger et au nord. D'autant qu'au nord Niger, ça dépend, c'est le même filon que le filon libyen. En revanche, sur le plan politique et culturel, ils sont extrêmement présents. Alors donc, la question que je me pose, c'est pourquoi des sociétés libyennes n'interviennent pas au nord Niger et au nord Mali, alors qu'au nord Mali, c'est surtout la Sonatrach. Je crois que la Sonatrach a dû avoir 53% des permis de recherche, ce qui n'est pas du tout négligeable, plus sociétés malaisiennes, etc. Alors, est-ce que ce sont des sociétés écrans ? J'en sais rien. Mais enfin, l'influence algérienne au nord Mali est importante.
Alors, revenons au sujet de cette insécurité anéantie et ses répercussions sur les États et les populations. Est-ce qu'il y a collusion aujourd'hui entre ces groupes et certains éléments, que ce soit au sein du pouvoir politique ou au sein des forces de sécurité de la région, parce que souvent c'est ce qui arrive.
Oui, il y a un certain nombre d'indicateurs qui montrent que des trafics, je parle en particulier en Mauritanie, ne pourraient pas avoir lieu sans, disons, une collusion de certains éléments des services de sécurité. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, moi j'étais à Nouadhibou, donc qui se trouve au nord de la Mauritanie, à la frontière sud du Sahara occidental. Et je posais un petit peu des questions à des amis sur justement ces trafics, parce qu'il y avait eu tout un nombre important de saisies de drogue dans le port de Nouadhibou. Et le port de Nouadhibou est un port d'importation et de réexportation de cigarettes, par exemple, vers le Maroc. Et je disais, mais comment font ? Il y a une frontière, il y a beaucoup de militaires. Quand vous fréquentez ces routes, il y a énormément de postes militaires. Eh bien, les locaux me disaient, les trafiquants, d'une part, ils sont connus de toute la population de Nouadhibou, et d'autre part, ils achètent la route.
Oui, André Bourgeot. La même chose au Mali et au Niger. C'est difficilement imaginable que tout ce trafic de drogue, etc., se fasse sans la caution de personnalités hautement placées, que ce soit sur le plan politique comme d'affaires. C'est des hypothèses tout à fait envisageables.
Oui, et pour les populations, alors, tantôt, parce qu'on a l'impression que tantôt elles sont victimes et tantôt partenaires de ces trafics.
Parler des populations, moi, je pense qu'elles sont plus en otage. Non, je ne pense pas qu'il y ait une collusion au niveau des populations. C'est la raison pour laquelle j'ai fait tout à l'heure une différence entre
les
petits groupes, la criminalité,
groupes,
etc.
Oui.
Mais à propos de la drogue, vous posiez tout à l'heure la question pourquoi la drogue ? La drogue a été quand même précédée par tout un trafic de cigarettes à partir des rébellions Touareg de 1990. Rappelez-vous qu'un des leaders d'un front, le Front de Libération de la Zawad, qui était dirigé par Rissa Agboula, avait justement saisi un camion de Marlboro. Donc l'hypothèse que j'envisage, c'est qu'il y avait déjà probablement une programmation de circulation, d'acheminement de la drogue dans l'espace saharien, et que pour ça faire, il fallait
tester. De toute façon,
c'est
toute l'Afrique de l'Ouest qui est
absolument
concernée.
Donc il fallait tester. Le test s'est fait par le trafic de cigarettes. Ensuite, c'est passé cocaïne, hashish, etc. Donc je pense que ça renvoie à une stratégie mûrement pensée, disons, sur peut-être 15 ou 20 ans.
Alléantil.
Alors sur ce point-là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand on regarde en particulier les rapports de l'UNODC, enfin c'est l'agence de l'ONU qui s'occupe des trafics, en particulier de la drogue, il y a une agence assez dynamique à Dakar. On voit que les routes de la cocaïne en Afrique de l'Ouest ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des trafics de cigarettes. Pour faire simple, je dirais qu'elles sont plutôt littorales. Les grosses saisies ont eu lieu surtout en mer, mais aussi dans des pays comme la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert aussi. Et toutes les informations montrent qu'il y a eu des saisies aussi au Mali, au Niger de cocaïne, mais à chaque fois, c'était des petites quantités. C'était de l'ordre de quelques kilos, alors que les saisies réalisées, je pense à Ouagadougou ou même en Guinée-Bissau, c'est quelque chose de l'ordre de 600 kilos. C'est une valeur monétaire considérable. Et il y a plusieurs routes. Il y a une route terrestre, une route par bateau, les fameux speedboats. Et puis aussi une utilisation via les mafias nigérianes de mules. Par exemple, il y a eu une saisie il y a 3 ans dans un avion qui est arrivé à Amsterdam. On a trouvé 30 personnes qui avaient avalé 1 kilo de cocaïne chacune.
Les circuits ont été progressifs. C'est la raison pour laquelle je fais référence à au trafic de cigarettes. Le trafic de cigarettes ne passe pas nécessairement par les mêmes pistes. Mais ça a été des pratiques précurseurs, si vous voulez, qui a fait en sorte que, compte tenu du fait qu'on pouvait acheminer les Marlboro, pourquoi pas ne pas passer à un stade supérieur qui était le stade de la cocaïne. On constate que ça a commencé par des 4x4, ensuite des petits avions, jusqu'à l'affaire du Boeing 737, où 10 tonnes, ça me paraît énorme, 10 tonnes de cocaïne, ça me paraît énorme. Et finalement, je me demande si ce n'est pas de l'intox, 10 tonnes, mais vous vous rendez compte? Ça passait au début peut-être par 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, et comme ça, subitement, 10 tonnes.
Alors, on parle des zones quand même où les États, en tout cas les pouvoirs publics, ne sont pas toujours très, très présents. Est-ce que la cohésion sociale, qui était déjà difficile à maintenir entre les groupes de Touareg, les groupes arabes, les Peuls, est-ce qu'elle ne risque pas de subir les conséquences de la situation? Où est-ce que ça commence? Est-ce qu'on commence à le voir aujourd'hui, André Bourgeot? Vous venez de là, vous étiez là il n'y a pas très longtemps.
Oui, je pense qu'il y a des processus de dislocation. Et ces processus de dislocation se conjuguent aussi avec des situations politiques légales. Bon, si vous prenez le problème des élections et le cas de Kidal a toujours été sous la chefferie Iforas. Et à l'issue des élections, ce sont les tributaires, donc les dépendants, qui ont pris le pouvoir. Donc vous voyez, les incidences politiques...
Il y a un renversement de rapport de force.
Absolument. Oui. Renversement et création de nouveaux conflits, de nouveaux antagonismes. Alors dans ce contexte-là, où la politique nationale se mélange à des problèmes de criminalité, à des problèmes de pratiques terroristes, c'est un brûlot fantastique.
Oui. Alors... problème de solution. On sait que depuis déjà en 2008, mais 2007 et 2008 et surtout 2009, tous les pays appellent à une sorte d'union sacrée entre les pays de la région, de l'Algérie au Niger, en passant par la Mauritanie, le Mali, même le Burkina Faso, pour faire face à la situation. L'Union européenne y participe. Or, jusqu'à présent, on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à poser des actes concrets à l'Antille. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, un commandement commun, ils échangent des informations, d'accord, mais on dirait que ça ne va pas plus loin que ça.
Les pays de la zone, il faut être clair, ont un mal fou à travailler les uns avec les autres. Au niveau des échanges de renseignements ou de politiques communes, on ne voit pas émerger ça, malgré toutes les déclarations. Enfin, il y a un an ou deux, il y avait à la fois Bamako et Niamey qui voulaient organiser une conférence régionale sur les questions de sécurité en même temps, pratiquement. Je dirais, si on va au nord vers le Maghreb, on tombe exactement sur les mêmes questions. Et je dirais même encore plus fort, parce que vous avez l'Algérie et le Maroc qui collaborent finalement très peu.
L'Algérie et la Libye non plus.
Donc il y a des rivalités très très fortes qui font que on n'a pas de politique unitaire. Et puis il y a quelques semaines, il y a eu une rencontre de ministres de l'Intérieur à Tolède en Espagne sur ces questions de sécurité. Eh bien, l'Algérie a fait une déclaration en disant on n'a pas besoin, pour gérer ces questions de sécurité, on n'a pas besoin de gens comme les Américains ou les Européens. Donc, vous voyez, il y a tout un tas d'enjeux.
La même Algérie qui accuse tout le temps le Mali de ne rien faire.
Oui, oui. Mais c'est l'Algérie qui a très peur de ce qui se passe à ses marges sud, qui a envie de contrôler, qui, pour faire pression à des techniques, et de, voilà, on essaye d'exporter un petit peu nos ennuis. On est dans une, vraiment dans une non-coopération, malgré toutes les déclarations.
André Bourgeot.
Alors ça pose aussi le problème des pouvoirs politiques nationaux, parce que moi je constate en Algérie le retour en force du pouvoir militaire. De plus en plus, les généraux, j'ai oublié le nom d'un général, mais de plus en plus, il est influent. Donc, il y a quelque chose qui se trame actuellement en Algérie, mais pareil au Mali. Parce qu'au Mali, on voit mal comment un futur président de la République...
Vous anticipez, soit, là.
J'anticipe, oui, j'anticipe, mais c'est un peu ma fonction aussi d'anticiper. Je vois mal comment un civil pourrait résoudre les problèmes qu'il y a actuellement dans le septentrion malien.
Donc il faut rappeler que l'actuel président est un ancien militaire.
Or, le président de la République du Mali est un militaire et la Constitution lui interdit de se présenter pour un troisième mandat. Donc on peut se demander si actuellement on ne crée pas les conditions politiques pour légitimer la présence d'un troisième mandat.
Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites que les leaders de la région susciteraient eux-mêmes une situation d'insécurité telle qu'ils puissent rester au pouvoir.
Non, ce n'est pas les leaders de la région. C'est un ensemble de facteurs qui font en sorte que... Il y a quand même, je m'excuse, il y a quand même l'exemple du Niger.
Les trois présidents des pays dont on parle sont des militaires.
Eh oui.
Abdelaziz est un militaire, Atété est un ancien militaire, Tanja est un ancien militaire.
Ouais, donc Tanja pour le Niger, Atété pour le Mali, Abdelaziz et pour la Mauritanie.
Oui, et pour l'Algérie, pourquoi pas un militaire qui succéderait au président Bouteflika?
Moi, je suis un peu d'accord avec cette analyse. Allez, parce que j'ai dit à peu près la même chose sur la Mauritanie dans plusieurs publications. Je pense que l'arrivée de rente très très importante, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'effectivement, la zone, il y a toujours eu des trafics, comme vous le disiez, mais le trafic de cocaïne et la contrebande de voitures, on parle pas de la même chose. Et ça a créé des rentes dans des pays qui, par ailleurs, ont vu une économie s'affaisser, un État avec les plans d'ajustement structurel des années 80-90, un État qui pèse moins sur la société, parce qu'il a moins les moyens. Et je pense que en Mauritanie, comme ailleurs, on va avoir de plus en plus de mal d'échapper à un pouvoir militaire qui soit direct ou que le président soit civilisé, entre guillemets, ou qui soit simplement en gardant son képi. Donc il faut, on est dans une phase de vraie régression.
Alors, on parle des présidents, mais on sait que dans ces régions, même si souvent d'ici on ne le voit pas, il y a des sociétés civiles qui se sont réveillées, qui essaient d'agir, qui tirent la sonnette d'alarme. Est-ce qu'ils sont écoutés?
La notion de société civile en ce qui concerne...
Des associations, en tout cas.
En ce qui concerne l'espace saharien, ce n'est pas très efficace par rapport aux enjeux et par rapport à d'autres pouvoirs, notamment au pouvoir de la criminalité. J'insiste un peu sur cet aspect de criminalité parce que c'est quand même un élément nouveau. Donc les pouvoirs locaux incarnés par les ONG ou les associations, d'une manière plus générale...
Ou par les chefs traditionnels.
Non, la chefferie traditionnelle, c'est encore différent, parce que la chefferie traditionnelle, généralement, elle est sur les positions politiques du pouvoir central. Alors que la société civile, ce n'est pas le cas. La société civile, elle dénonce certaines choses, elle s'inscrit dans la bonne gouvernance, etc. Mais quelle influence politique peut-elle avoir? Pratiquement rien. On va voir ce qui va se passer au Nord-Mali, puisque les anciens, les rebelles de 2009 vont créer un parti politique. Ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que le processus de rébellion est en train de conduire actuellement à la création d'un parti politique afin d'éviter les antagonismes internes à la rébellion de 2007-2009.
Allez, ce sera le mot de la fin. Faut-il désespérer de la zone sahélienne?
Oui, on est dans une phase vraiment très inquiétante. J'avais fait un petit calcul en 2007 de calculer en Mauritanie la valeur marchande des saisies qui ont été réalisées. Et on arrivait à un chiffre qui représentait entre 15 et 20% du PIB. Et il faut se dire aussi que les saisies, on ne représente pas évidemment tout ce qui a transité par ce territoire. Donc malheureusement, la société civile, qui est d'ailleurs au moins autant fragmentée que le monde politique, n'est pas en mesure de lutter efficacement contre ces, question.
Merci. Donc, une situation à suivre. Merci à tous les deux. Vous êtes toujours à l'écoute de France Culture. C'était Place des Peuples. Aujourd'hui, les États et les populations face à l'insécurité dans la zone sahélienne. Avec Alain Antil, responsable du programme Afrique subsaharienne à l'IFRI. Il est aussi enseignant à l'Institut d'études politiques de Lille et à l'Institut supérieur technique d'Outre-mer. Et André Bourgeot, directeur de recherche émérite au CNRS, attaché d'émission Catherine Madure, réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Christian Thibaudeau. France Culture, il est 16h30, l'heure de retrouver la fiction pour les petits et les grands.